Voilà, je prie, ma prière, c'est que ces quelques mots que je vais partager vous bénissent autant que moi, ça m'a béni de les préparer. Avec Emmanuel, ces deux dernières années, on suivait un plan de lecture quotidien. C'était la Bible en 2 ans, la Bible en 1 an. La Bible en 1 an, c'est génial, mais quand on a des grosses journées, des fois, c'est un peu long, surtout si on veut méditer sur ce qu'on lit. Mais la Bible en 2 ans, je vous recommande. Franchement, nous, on est super contents de l'expérience. Ça, du coup, en 20 minutes, vous avez le temps de lire, mais aussi de méditer un peu. C'est vraiment chouette. Et du coup, dans notre plan de lecture, ces derniers jours, il y avait le livre d'Esther. Et je me suis régalé. Et il y a un personnage en particulier qui est ressorti. Alors que je lisais pas par rapport à la préparation de ce message, je lisais pour mon bien personnel, mais d'un coup il y a un personnage qui est ressorti, et ben c'est pas le personnage d'Esther. Je me rappelle il y a quelques années, Olivier l'a abordé tellement bien. Si vous retrouvez le message sur le site, allez les écouter. Il y avait une série de messages sur Joseph, Daniel, Esther. Mais le personnage qui m'a vraiment, il y a un verset en fait qui m'a vraiment sauté aux yeux. C'était le personnage de Mardoché. Et du coup, j'avais ce verset pour commencer dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée 1, verset 7, où Paul dit « Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous, et écoutez ces mots, c'est un peu une traduction différente, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. » Et vous savez, c'est ces fameux « force, amour et sagesse ». Et en fait, en lisant, en parcourant ces chapitres du livre d'Esther, Mardoché vraiment est ressorti comme quelqu'un pour moi qui fait preuve de force, de courage, on peut dire aussi, d'amour et de sagesse. Et c'est ce que je veux essayer de vous montrer parce que je trouve que c'est tellement un bon modèle pour nous en tant qu'Église, mais personnellement, là où on est, dans nos semaines, dans nos travails, dans nos familles, partout où le Seigneur nous envoie, on a besoin d'être des Mardochés. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin. Et du coup, on ne va pas lire, bien sûr, ces 10 chapitres Esther. Je vous encourage vraiment à le lire, ça se lit vraiment comme une histoire, c'est vraiment super de lire. Mais ce matin, je vais vous résumer un petit peu. Et du coup, ce personnage de Mardoché, il est mentionné dans ce livre. Et donc, l'histoire se passe à Suse. Suse, c'est au Moyen-Orient, hein, c'est une des capitales de l'Empire perse. Donc vers l'Iran, tout ça. Et c'est environ 500 ans avant Jésus que tout ça se passe, sous le règne de Xerxès, entre les deux retours des exilés juifs à Jérusalem. Vous savez que le peuple de Dieu, étant contre Dieu, étant dans l'idolâtrie, a fini par être exilé à Babylone, et puis dans toute cette partie-là de la Perse, etc. Et du coup, au bout d'un moment... petit à petit, par la grâce des rois vers qui ils ont été exilés, ils sont renvoyés tour à tour pour différentes missions ou autres vers Jérusalem. Et je vous encourage vraiment à lire ça, c'est très fort et passionnant. Et du coup, Mardoché, c'est un juif qui avait été déporté, bien sûr, c'est sa famille qui avait été déportée, et il adopte une cousine, il a une cousine, des fois on dit que c'est sa nièce, mais on dit la plupart du temps que c'est sa cousine, qui s'appelait Hadassa en hébreu, et son nom sur sa terre d'exil, c'était donc Esther. Et on nous dit que Esther était très très belle, elle était orpheline de père et de mère, c'est pour ça qu'il l'a adoptée, et elle était très belle. Et en fait, il se passe, avec l'impératrice en place, il y a un souci, elle désobéit à l'empereur, et du coup il la renvoie. Vasti, l'impératrice, Vasti, lui dit Vastin. Voilà, non, mais ça c'est. Merci, c'était la petite boutade. Mais lui, en gros, il la répudie et il faut du coup une nouvelle impératrice. Et c'est là que Esther entre en jeu. Elle est très très belle et elle gagne la faveur de l'empereur et elle devient impératrice à la place de Vasti grâce à son cousin Mardoché qui travaille au palais. Et du coup, une des premières qualités de Mardoché, cet homme, je vous disais force, amour et sagesse. Des fois, la sagesse, mais l'amour aussi, ça peut se traduire par ce qu'on appelle la diligence. Rien à voir avec les westerns. La diligence, c'est une qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, la diligence? On l'utilise beaucoup en anglais. C'est mettre toute l'application nécessaire à l'exécution d'une tâche ou d'une mission. Et Mardoché, il était vraiment comme ça. Il travaillait, il nous est dit, au chapitre 2, verset 21, qu'il travaillait pour l'empereur, qu'il exerçait des fonctions au palais royal. Il fait son travail avec diligence à tel point qu'à un moment donné, il y a un complot. Vous êtes sûr de ça, carrément? C'est vrai? Ah, c'est pour voir derrière. Je croyais que c'était... Okay. Et du coup, à tel point qu'il dénonce un complot. Il y a deux collègues à lui, on va dire, qui complotent contre l'empereur. Et il les dénonce. Et du coup, ils sont exécutés. Et puis, on se dit qu'il gagne faveur aussi auprès de l'empereur parce qu'il fait vraiment son travail sérieusement. Et ça m'a fait penser à un verset. C'est pareil, c'est fou. Des fois, vous avez des petites confirmations comme ça quand je prépare des messages, j'aime bien. Ça m'a fait penser à un verset dans Jérémie, encore un verset pendant l'exil. Et le prophète Jérémie qui dit, vous savez, donc il parle à Israël, hein, il dit « Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. » Et des fois, on est dans des situations difficiles et on peut croire que ben voilà, Dieu m'a oublié. Par exemple, je suis placé, Dieu m'envoie travailler dans une entreprise, Dieu m'envoie dans un autre pays pour une raison ou pour une autre. Et on peut se croire oublié de Dieu, loin de Dieu. Non, au contraire, on peut voir ça à l'inverse, que Dieu, il veut utiliser toutes les situations, même quand on se sent seul, même quand on se sent abandonné. Il a un plan et vraiment, il nous encourage à rechercher de voir son royaume se manifester là où nous sommes. Là où nous sommes, même si ça peut paraître bizarre, et même de rechercher la faveur des gens qui sont là, même si ce sont des étrangers, même si on peut croire qu'ils sont contre nous, contre notre peuple, Dieu veut bénir. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la Bible la grâce commune. Dieu veut bénir tous les hommes. Il veut bénir tous les hommes pour que tous puissent le connaître, pour que tous veulent venir à lui. Il est un Dieu tellement rempli de grâce qu'il veut que sa grâce soit manifestée de partout. Et il nous demande, c'est pour ça, d'être diligents. Et là où on est, dans notre travail, là où on est, dans notre famille, avec le peu que Dieu nous donne des fois, d'être diligent avec ça, de faire notre travail, peu importe dans quoi tu travailles, de le faire avec sérieux, de le faire, vous savez, tout ce que vous faites, faites-le pour Dieu. Amen. Et du coup, Mardoché, c'était quelqu'un comme ça. Et ça, vraiment, c'est un encouragement. Moi, personnellement, je l'ai pris comme un encouragement pour moi, dans mon travail, que ce soit pour l'Église ou dans mon travail d'infirmier. Vraiment, de faire les soins, de traiter les gens, les collègues, etc., avec amour, avec patience, avec sérieux aussi. Amen. Et ça, c'est très important. Et ça va vraiment avec, si on parle de notre Église, avec l'appel apostolique de notre Église. On dit souvent, vous savez, apostolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire être envoyé. Et Dieu nous envoie personnellement, et Dieu nous envoie aussi en tant qu'Église pour avoir un impact. L'apôtre, vous rappelez, c'est celui qui était envoyé par Rome pour recréer Rome là où il était envoyé. Et bien, nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu, et Dieu nous envoie là où il nous envoie pour amener son royaume et pour avoir un impact, pour transformer là où nous sommes. Amen. Et c'est vraiment ce que Mardoché nous montre par son investissement à la cour de Xerxès. Et rien que ça, si on peut retenir que ça, je me challenge vraiment à progresser dans ces domaines-là, à progresser dans ce sérieux, dans cette diligence. Après, ça c'est un tableau, ironie de mon message, qui est au musée du Louvre. Donc celui-là, je pense, n'a pas été volé, mais vous voyez Mardoché, le personnage central, hein, c'est hyper bien fait. Là, on va voir pourquoi lui se tient debout et que tout le monde est en train de se prosterner. Parce que Mardoché, comme j'ai dit, c'était aussi quelqu'un de courageux. Et on voit ça dans le chapitre 3. Il y a, c'est marrant, c'est comme en France, il y a un nouveau Premier ministre qui est nommé. Ça nous arrive souvent en ce moment. Et ce nouveau Premier ministre, vous connaissez la plupart son nom, je pense, il s'appelle Aman. Et Aman est nommé, et vu son rang, en fait, c'était une coutume à l'époque, tous les fonctionnaires du palais et tout le monde, en fait, devait se prosterner quand il passait, quand il allait quelque part, etc. Tout le monde devait se prosterner. Et c'est ce qu'on voit sur le tableau autour, tout le monde se prosterne, il est sur le cheval. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Mardoché, notre personnage d'aujourd'hui, il ne s'agenouillait pas et il ne se prosternait pas devant Aman. Et On peut imaginer ses collègues, je me suis dit, mais ils ont dû se dire, il est gonflé, il a vendu quelque part les deux autres collègues là, qui ont été exécutés parce qu'il a rapporté à Esther, puis du coup à l'empereur, le complot qui manigançait. Et bien, ah ouais, ben, nous aussi, nous on va le dénoncer. Ils lui demandaient, mais pourquoi tu ne te procèdes pas? Ils ont fini par le dénoncer. Et du coup, quand Aman... juste, voilà, le courage, rendons-nous compte de ce courage. Tout le monde se prosternait, mais lui choisissait de ne pas se prosterner. Et on va parler de cet aspect-là. Mais du coup, quand Aman apprend que Mardoché, non seulement il ne se prosterne pas, mais qu'en plus, il fait partie du peuple juif, eh bien, il ne veut pas seulement exécuter. La normalité, ça aurait été que Aman décide que Mardoché soit exécuté, point barre. Mais non, c'est curieux. Il ne veut pas seulement que lui soit exécuté, il veut que tous les juifs soient exécutés, tous les juifs non seulement de la ville, mais tous les juifs présents dans toutes les provinces de l'Empire, donc jusqu'à Jérusalem y compris. On se dit, mais c'est disproportionné. Un homme ne veut pas se prosterner, mais tous les juifs, tout le peuple juif doit être exécuté. Et là, c'est là qu'on voit que Aman, non seulement il est courageux, il refuse par loyauté envers son Dieu de se prosterner devant ce Premier ministre, mais Aman, c'est pas n'importe qui. Et je pense, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ce que les théologiens expliquent. Il n'est pas, en fait, Mardoché a du discernement. Donc c'est cette fameuse sagesse. Vous savez, on a dit force, amour et sagesse. Il a aussi cette sagesse, ce discernement de lui, en fait, Mardoché. C'était un descendant, il était de la tribu de Benjamin. OK, qui avait été roi d'Israël de la tribu de Benjamin? Saül. OK. Et incroyable, Aman était un descendant des Amalécites. Et en fait, les Amalécites, c'était le peuple un peu historiquement ennemi d'Israël. Et si vous lisez dans 1 Samuel, vous verrez que Dieu avait ordonné à Saül d'exterminer les Amalécites. Et Saül ne l'avait pas fait complètement. Il avait fait une partie du travail, mais il avait gardé des biens précieux, des troupeaux, etc. Il n'a pas fait le job jusqu'au bout. Et en fait, la désobéissance de Saül, eh ben, elle continue, elle est traînée un peu. Vous savez, on parle de malédiction générationnelle. Elle est traînée dans cette tribu de Benjamin, quoi, jusqu'à arriver à ce fameux Mardoché de la tribu de Benjamin qui se retrouve face à Aman, descendant des Amalécites. C'est un peu l'affrontement du descendant contre le descendant. Et c'est là où on voit que ce n'est pas une histoire d'ego, ce n'est pas qu'une histoire d'homme. Dans son courage, Aman, non seulement il refuse de s'agenouiller devant un premier ministre voilà, qui n'est pas ordonné par Dieu, etc., mais il y a un combat spirituel de l'ennemi de Satan qui veut détruire le peuple d'Israël. Et ça, pareil, dans l'actualité aujourd'hui, on parle énormément d'antisémitisme. Et en fait, Aman, c'est un peu la personnification de l'antisémitisme. Un homme fait une faute, il veut que tout le peuple soit totalement éradiqué, parce que c'est le plan de Satan d'éradiquer Israël, les Juifs, le peuple de Dieu. Et ça, il ne faut pas qu'on se leurre à ce niveau-là. C'est toujours aujourd'hui le cas, l'ennemi veut éradiquer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et on le voit de manière différente. Je me rappelle la fois où on a été en Israël, et notamment à Yad Vashem, au musée de la Shoah, hein, à Jérusalem. Il y a un endroit du jardin où vous avez des tours un peu avec des gros blocs de pierre. Et sur ces blocs de pierre, il y a toutes les villes d'Europe ou peut-être du monde, je ne sais plus, où à la fin de la guerre, il n'y avait plus de juifs du tout. Alors qu'il y avait des juifs dans toutes ces villes-là, à la fin de la guerre, il n'y avait plus du tout de juifs. Et en fait, ça nous met vraiment la réalité en face des yeux que dans plein d'épisodes comme ça de l'histoire, jusqu'à des beaucoup plus récents, l'ennemi essaye de détruire et d'éradiquer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et ça, c'est très important pour nous en tant que chrétiens, et je dis ce mot-là sciemment, de le réaliser. Parce que notre destin en tant que chrétien, même si on n'est pas juif, est lié au destin des juifs, est lié au peuple de Dieu. La Bible dit que le salut, c'est dans Jean, le salut vient des juifs. Vous savez, quand Jésus s'adresse à la Samaritaine, il dit le salut vient des juifs. Nous sommes cousins dans la foi. Notre statut et vient grâce au peuple juif. Jésus était juif. Jésus est juif, était juif. Et nous sommes greffés sur l'olivier franc. Nos racines, les racines de notre foi sont des racines du judaïsme. Et ça, c'est tellement important. Et c'est rigolo, avec les filles, on regardait la Bible. Là, quand vous prenez une Bible, vous l'ouvrez entre... vous mettez l'Ancien Testament d'un côté, le Nouveau Testament de l'autre. Vous vous rendez compte, très factuellement, le Nouveau Testament, ça fait ça. L'Ancien Testament, ça fait trois fois plus. Parce qu'en fait, c'est là que sont les racines. Et il ne faut pas négliger cela. Il faut se rendre compte que quand l'ennemi s'attaque aux Juifs, il s'attaque aussi à nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que... en Christ, en Jésus. Amen. Amen. Et Jésus est le Messie des Juifs. Il est aussi notre Messie. Notre destin est lié au leur. Et du coup, dans cette histoire, vraiment réalisons le plan de l'ennemi global depuis le début de l'histoire de l'humanité avec le serpent. C'est d'éradiquer le peuple de Dieu. Et du coup, nous soyons, voilà, manifestons notre amour pour Israël. Manifestons notre amour pour les Juifs. En action et en parole, en prière, amen. Parce qu'on sait que Jésus va revenir, il va revenir à Jérusalem, et ça sera extraordinaire. Donc voilà, il est vraiment discernant et il comprend cet enjeu, et spirituellement, il se lève, il fait preuve vraiment de ce courage pour refuser de s'agenouiller devant Aman. Et comme Mardoché, nous aussi, nous devons être courageux. Au-delà du peuple de Dieu, au-delà des Juifs, il faut vraiment qu'on fasse preuve de courage. Et ça me fait penser à d'autres personnages. Et il y a tellement de personnages dans l'histoire du monde qui se sont levés contre l'injustice, contre ce que l'ennemi essayait de faire. Mais il y en avait deux en particulier, et si tu peux montrer la photo, voilà. Deux qui ont attiré mon attention ces derniers mois, années. Je vais faire de manière chronologique. À droite, vous avez Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, je ne sais pas si vous avez vu le film, je vous le recommande. Il y a Sage qui a sorti un film. Je vous recommande encore plus la lecture de sa biographie. C'est un gros pavé, mais je vous promets, c'est un trésor absolu. Parce qu'il se trouve que Dietrich Bonhoeffer, alors lui, il a grandi dans l'aristocratie allemande, dans les années 15, 20, etc. Et du coup, il est devenu adulte dans les années 30, au moment où Hitler est arrivé au pouvoir dans le Troisième Reich. Et en fait, Dietrich Bonhoeffer, il a grandi, il était attiré par Dieu, il s'est formé en théologie, donc il était tellement intelligent, c'est devenu vraiment un théologien de haut vol, hein, qui est cité dans le monde entier. Il a écrit plein de bouquins que je vous recommande, c'est des lectures parfois un peu costauds, mais c'est brillant. Mais il se trouve que dans ses stages d'étudiant en théologie, il s'est retrouvé aux États-Unis. Et il s'est retrouvé aux États-Unis dans des églises noires où il y avait le feu pour l'évangile et le feu de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit qui était là. Et là, il a fait vraiment une rencontre avec Dieu puissante. Le Saint-Esprit est venu sur lui et vraiment a changé sa vie du tout au tout. Et l'étudiant théologien cérébral qu'il était est devenu vraiment un chrétien enflammé pour Jésus. Et là, ça l'a conduit comme Aman, à refuser l'oppression du Troisième Reich. Et si vous le voyez bien dans le film, il était tellement brillant en fait qu'on l'invitait à prêcher dans des grandes églises en Allemagne. Et des fois, il y avait la Gestapo, il y avait la Wehrmacht qui était là dans les messes, etc. Vous savez, c'était luthérien en majorité l'Allemagne, donc protestant. Et il parlait, et il prêchait contre l'oppression nazie, il dénonçait l'oppression nazie. Vous savez que les nazis avaient fait une Bible nazie, en fait, et ils voulaient enlever la Bible normale. Jésus juif, c'était insupportable pour eux. Et du coup, ils avaient fait une Bible nazie qui enlevait des passages, et où ils disaient, à la place de Jésus, c'était Hitler. Et lui dénonçait ça. Mais il dénonçait ça aux yeux de l'armée allemande, aux yeux de la Gestapo. Et là, je peux vous dire que c'était un sacré Mardoché, Dietrich Bonhoeffer. Et ça l'a conduit. Après, il y a des débats. Pensez-en ce que vous voulez, mais ça l'a conduit à rentrer dans un complot pour assassiner Hitler. Et il a pris part à ça. Voilà. Spontanément, je me dirais, mais c'est pas bien, c'est la mort, etc. Mais comme Cyril nous y encourageait, parfois. Le Saint-Esprit nous conduit à faire des choses inhabituelles. Et jusqu'au bout, dans sa cellule, il priait Dieu. Les gardiens de cellule étaient touchés par lui, etc. et il a été pendu quelques jours seulement à l'été 1945, quelques jours avant la capitulation de l'Allemagne. Et c'est vraiment un héros, ce gars. Moi, je le connaissais très peu, mais je vous encourage vraiment à lire, c'est absolument merveilleux. C'est un Mardoché des temps modernes. Et il y a un autre Mardoché des temps modernes. Et encore une fois, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais il y a quelque chose dans ce jeune homme, Charlie Kirk, qui a été assassiné il y a 2 mois. Aux États-Unis, il y a quelque chose de Mardoché aussi, que moi, personnellement, j'ai ressenti. Alors oui, il faisait campagne, etc., pour Donald Trump, ça, on le laisse de côté ce matin, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas peur d'affronter et d'aller contre l'état d'esprit, la pensée unique de tout ce qu'on voit aujourd'hui, du wokisme, etc., et de dire aux gens, ben, parlons-en ensemble, débattons ensemble, quels sont vos arguments, etc. Mais quand vous regardez les vidéos, c'est toujours quelqu'un qui avait le sourire, c'est toujours quelqu'un qui était dans le respect. Il cherchait, oui, à débattre, il avait une passion pour le débat, mais il n'était pas là pour humilier les gens. Et il y a plein de vidéos, quand vous regardez, où il est rempli d'amour pour les gens, il y a des satanistes qui viennent devant lui, il y a des femmes qui se montrent presque seins nus devant lui, etc. Mais toujours dans le respect, toujours dans l'amour. Et a vraiment essayé d'ouvrir les consciences sur le royaume de Dieu au milieu de nous. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Charlie ? Ben, voilà, quelqu'un l'a assassiné ce jour-là, le jour où cette photo a été prise, il portait ce t-shirt. Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais quel courage, ce gars, père de famille, il a pris une balle dans le cou. Merci Seigneur, les expertises médicales ont dit que ça a été vraiment prouvé scientifiquement qu'il n'a pas eu le temps de souffrir. En fait, là où la balle est arrivée, c'était tellement soudain que voilà, le cerveau a débranché directement, ça, on peut le vérifier ça. Et merci Seigneur pour ça. Et puis, il y a un truc qui m'a vraiment marqué. C'est que, déjà, aujourd'hui, aux États-Unis, du fait de son assassinat, il y a un véritable réveil qui se passe. Il y a des millions de gens qui demandent des Bibles, il y a des millions de gens qui vont dans les églises, des gens soit qui étaient chrétiens mais qui avaient laissé tomber, soit des nouvelles personnes. Donc ça, c'est un fruit de fou. Mais ce qui m'a marqué, j'ai regardé les 5 heures de service funéraire qui a été organisé pour lui. Il y a quasiment 2 stades qui ont été de plus de 80-90 000 personnes qui ont été remplies pour sa cérémonie d'enterrement. Et vous écoutez les médias français, ils disent que c'est des nazis, comparer ça à Hitler. Enfin, voilà, là, ça, je laisse de côté, mais ça m'a énormément révolté, bien sûr. Mais moi, j'ai regardé les 5 heures sur YouTube et je peux vous dire, témoignage après témoignage, que ce soit des hommes politiques, des amis personnels, c'était que Jésus qui était élevé. Et quand sa femme, la veuve, s'est tenue sur scène et a dit, cet homme, son assassin, je le pardonne. Et on voyait la souffrance, bien sûr, au moment de dire ça, que ça a été dur pour elle de lâcher ces mots, mais elle a choisi de pardonner publiquement à l'assassin de son mari. Et c'est bouleversant. Et je me dis, ben voilà, maintenant ce t-shirt Freedom, ça me faisait penser, vous savez, à Braveheart, pour ceux qui ont aimé ce film, là, quand il est sorti il y a pas mal d'années maintenant. Mais il y a vraiment ce côté liberté. Et ce mot liberté, c'est vraiment cette liberté que nous avons en Jésus-Christ, le sauveur des juifs, le sauveur des non-juifs. Jésus, en mourant et en ressuscitant, nous a acquis une liberté que personne ne peut nous enlever, en fait. Même si, comme lui, il a subi la persécution ultime, il est aujourd'hui auprès de Dieu, et encore une fois, les fruits qui sont manifestés sont magnifiques. Donc, voilà, Jésus nous a acquis une liberté. Ne nous laissons pas, il y a ce verset, hein, vous savez, dans le Nouveau Testament qui dit « Ne nous laissons pas être remis en esclavage. » Amen. Donc soyons comme Charlie, soyons comme Dietrich, soyons des Mardochées. Là, j'ai cité 2 hommes, mais il y a tellement de femmes qui sont des exemples aussi de ça. Et de refuser de plier le genou. Et ça demande du discernement. Moi, parfois, c'est tentant, vous savez, dans des débats, etc., avec des amis non chrétiens, de sortir des arguments et tout. Si t'es pas animé par l'Esprit de Dieu, ça va pas porter des bons fruits. Au contraire, ça va distendre la relation, ça va partir en politique, ça va pas marcher. Mais soyons remplis du Saint-Esprit, mais osons quand même dire certaines choses, ou parfois ne pas dire certaines choses, parfois ne pas rejoindre un peu le mouvement tel qu'il se manifeste aujourd'hui, quoi. Et je pense qu'on a vraiment, c'est ça aussi d'être apostolique, c'est ça aussi d'amener le royaume de Dieu, c'est d'être une voie pour la liberté que Jésus nous donne. Donc quel est ton positionnement intérieur? C'est ça ma question pour toi ce matin. Quel est ton positionnement intérieur face au wokisme, face à la théorie du genre, face à la promotion des mœurs antibibliques, à la promotion de la mort au début ou à la fin de la vie? Non seulement ces choses-là nous détruisent nous-mêmes intérieurement quand on les vit, quand on passe par là, mais elles détruisent, on le voit de plus en plus aujourd'hui, elles détruisent notre société, elles détruisent ce sur quoi Dieu a voulu que toute communauté humaine soit fondée, la famille, la communauté. Et aujourd'hui, presque tu emploies le mot famille, on te dit que tu es facho, quoi. Presque tu dis papa, maman et les enfants, on te dit que tu es facho. C'est pas possible, les amis. Il faut, mais bien sûr avec discernement, mais vraiment soyons vigilants à ne pas nous laisser entraîner, ne pas fermer les yeux sur tout ce qui est dit, tout ce qui est prononcé. Amen. Et bien sûr, peut-être que toi, tu es dans cette salle et tu es passé par les choses que j'ai mentionnées. Et bien sûr, la grâce de Dieu est là. Bien sûr, il n'y a pas de jugement. Ça a été lu ce matin par Patrick. Jésus n'est pas venu juger le monde. Jésus est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Et moi le premier, j'ai commis des actes dans ma vie dont j'ai eu honte. Mais comme on l'a chanté, Dieu est là pour nous restaurer. Dieu est là pour libérer. Il ne s'agit pas de juger les gens, de dire que nous on a raison, qu'eux ils ont tort. Ça c'est l'opposé. Quand vous regardez l'attitude de Jésus, il n'est jamais condamnateur. Il vient comme une solution d'amour. Il vient, et oui, il nous dit de ne pas pécher. D'ailleurs, vous savez, parfois ça me démange, on lit souvent 2 Chroniques 7, 14, souvent dans nos semaines de jeûne et prière, vous savez. Pardon ? Si mon peuple s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se et souvent c'est comme si on oubliait cette partie-là du verset, on la met moins en valeur. S'il se détourne de sa mauvaise conduite, il y a vraiment un appel ce matin, être des mardochés aussi, c'est se détourner de nos mauvaises conduites, de ne pas continuer tout ce qu'on a toujours fait, tout ce et pareil, de discerner ce que le Saint-Esprit sur nous dit dans notre vie, etc. Je vous savais, cet été avec Emmanuel, on a pris un temps de sabbatique, on a pris un temps de repos, on a lu un bouquin, je vous en ai parlé, je crois, sur l'offense, l'arme cachée de Satan. Je vous promets qu'on n'a pas passé un été hyper facile, quoi. C'est venu chercher des choses en nous, c'était parfois très très désagréable, quoi. Mais soit on choisit d'être partenaire avec Dieu pour notre propre liberté, soit on endurcit notre cœur et après on a l'amertume, on a les puits qui sont bouchés. Vraiment, je vous encourage, les amis. Il ne s'agit pas de pointer les doigts sur les uns les autres, mais il s'agit de combattre. C'est un combat. C'est un combat que de se lever contre l'injustice extérieure dans le monde et ce qui se passe d'injuste aussi dans notre propre cœur. Amen. Et vous savez, il y a ce verset par rapport au fils prodigue. Le fils, d'ailleurs, on dit le fils prodigue, mais ce n'est pas le fils qui est prodigue. Prodiguer, ça veut dire donner avec abondance. Vous savez, c'est le père qui est prodigue. Dans cette histoire, à un moment donné, le fils, il est complètement perdu. Il a fait la fête, il s'est retrouvé vraiment complètement perdu. Et là, à un moment donné, il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et vraiment, je vous encourage, les amis. C'est pour plusieurs parmi nous, ce matin. Le Seigneur t'invite et il t'invite à te lever. Et combattre, c'est ça. Ça veut dire pas rester dans le statu quo, dans une situation de subir. C'est dire, non, je choisis, je crois que Dieu est à mon père, je choisis de me lever et de retourner vers lui. Et ce matin, il y en a plusieurs que Dieu appelle à se lever et retourner vers lui. Aman a voulu détruire le peuple juif. Et vous savez, la plupart, je pense, connaissez la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Aman a imploré sa cousine, qui était impératrice du coup. Je pense qu'il l'a imploré avec beaucoup de gravité, quoi, de se rendre compte que ce n'était pas juste son sort à lui. Bon, il aurait pu être exécuté, point barre. Mais c'était vraiment le sort, c'était spirituel, c'était le combat spirituel, le sort de tout le peuple juif qui était en jeu. Et je pense qu'Esther, la prestance, la carrure d'une reine, d'une impératrice, elle a saisi ça. Et elle a saisi ce que Mardoché lui a dit, que peut-être ce n'est pas un hasard si elle se retrouvait à ce moment-là de l'histoire dans ce positionnement. Et qu'est-ce qu'elle organisait, Esther? Et c'est aussi lié à la situation, à la disposition de la salle aujourd'hui. Elle a organisé 2 banquets et elle a mis une table comme ça. Et à ce banquet, il y avait plusieurs personnes qui étaient conviées, mais notamment l'empereur et notamment Aman. Et ça fait vraiment penser au psaume 23. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Je mets devant toi une table en face de tes adversaires. Donc vous, vos adversaires, ce n'est pas ceux qui sont là et inversement, hein, non, vous inquiétez pas. Mais quand même, Dieu met, et Esther a mis une table. Il y a eu un banquet, et c'est lors du banquet qu'elle a pu confronter Aman avec la sagesse. Dieu nous dit parfois d'être sages comme des serpents. Vous savez, vraiment, elle a eu ce discernement de savoir quelle stratégie adopter pour qu'Aman soit vraiment confondu par l'empereur. Elle a mis une table, elle a mis un banquet. Et Dieu met aussi une table pour nous, en face de nos adversaires. Il met un banquet. Dieu, on parle de combat, Dieu ne t'appelle pas à combattre et à te perdre dans ce combat, corps et âme. Non, surtout pas. Dieu, il t'appelle à combattre comme on l'est là ce matin, assis. Assis à la table du banquet où dessus il y a le sang et le corps de Jésus. Dans un positionnement de fils, dans un positionnement de racheté, dans un positionnement de fille, c'est comme ça que Dieu nous appelle à combattre. Et quand Esther a fait ça, Aman a été confondu. Aman avait fait construire une potence pour pendre Mardoché. C'est Aman qui a été pendu à cette potence. Et là, non seulement Mardoché a été sauvé, mais parce que l'empereur, entre-temps, il s'est dit, mais il m'avait sauvé ce gars, et on ne l'avait jamais honoré pour ce qu'il avait fait. Mardoché a pu être honoré. Et là, tout le peuple juif a été sauvé. Et c'est les peuples étrangers qui ont été derrière massacrés. Le peuple juif a été vraiment sauvé, vraiment grâce à Esther, grâce à Mardoché, honoré. Et Dieu a été honoré au travers de son peuple. Et tout cela, eh bien, c'est la fête juive de Pourim qui est fêtée chaque printemps. Et cette fête de Pourim, eh bien, c'est en mémoire de... Il y a une histoire du mot sort, vous savez. En fait, c'est le mauvais sort qui était sur les Juifs. Ben, il y a ce bon sort qui est tombé. Il y a le changement complet qui s'est produit. Et ben, ça a donné le mot Pourim. Ça a donné, et cette fête... Et je crois que cette fête, elle est pour les Juifs. Ce n'est pas en ce moment, c'est au printemps. Mais elle est aussi pour nous. Fêter Pourim, c'est se rappeler que nous étions esclaves. Nous étions ennemis. Le Satan avait son emprise sur nous, comme Aman avait son emprise sur les Juifs à cette époque-là. Mais Jésus, et c'est Esther un peu dans ce chapitre qui symbolise, qui représente Jésus. Jésus a été notre avocat auprès de Dieu, comme si Dieu était l'empereur. Et Jésus nous a libérés. Amen. Amen. Quel merveilleux livre que ce livre d'Esther. Et il y a une autre particularité en étudiant, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je ne sais pas si vous savez, mais le livre d'Esther, pas une seule fois Dieu est mentionné. Zéro, il y a 10 chapitres, pas une seule fois le mon Dieu, ou Jésus non, mais le mon Dieu, Seigneur, etc. n'est mentionné. J'ai dit, mais c'est fou. Évidemment, le chapitre, et on ne se pose même pas cette question, comme on le lit, tellement on voit Dieu en action. Et en fait, il est dit, les théologiens disent ça, je trouve ça hyper intéressant, que c'est parce que ben, c'est pour mieux illustrer la solitude un peu de l'exil. Ils étaient loin, et c'est comme si les Juifs se sentaient loin de Dieu parce qu'ils étaient en exil, ils étaient loin du temple, ils étaient loin de Jérusalem. Et de voir ce qui se passait dans leur cœur alors qu'il y avait un peu cette distance entre eux et Dieu qui pouvait être ressentie. Donc ça, je pense, c'est tellement... Pour nous aussi, des fois, on se sent loin de Dieu. Des fois, on a l'impression que Dieu est loin. On a l'impression que Dieu ne nous entend pas. On a l'impression que Dieu ne nous aime plus. On a l'impression que Dieu nous a oubliés. Souvent, hein, ça peut nous arriver. Mais comme les Juifs, comme le peuple de Dieu, comme Mardoché et Esther, vraiment saisissons-nous du vérité que ce n'est pas vrai. Dieu est toujours là avec nous. Il est à l'œuvre. Même si on ne le voit pas de manière classique, il est à l'œuvre. Même dans nos difficultés, c'est ce que j'ai vécu cet été, que je vis toujours aujourd'hui, même dans nos difficultés, Dieu est à l'œuvre. Et il y a une autre chose que j'ai perçue dans cette absence de Dieu, du nom de Dieu dans ces chapitres, c'est que les actes de Dieu, mais aussi les actes des hommes et femmes qui sont dans ces pages, témoignent autant, voire plus, que des prières qui pourraient être adressées. Et ça, je me le prends pour moi, mais pour chacun de nous aussi. Parfois, on peut être très fort pour parler, on parlait d'arguments, etc. On peut être très, très fort pour parler, on peut être très fort pour être très spirituel aussi, pour prier, pour chanter des chants. Mais être disciple de Christ, c'est obéir à Christ dans nos actions. Et vraiment, je nous encourage, les amis. Et peu importe là où tu en es, peut-être aujourd'hui, toi, c'est des petites actions que Dieu va te demander, mais peut-être tu es plus avancé dans la marche avec Jésus, et peut-être il y a vraiment des pas de courage, il y a des actions décisives qui vont pouvoir être menées là où tu es. Et tout ça ne dépend pas de ton rang, de ton statut, rien à voir. Tu as le plus grand des rangs, le plus grand des statuts, tu es enfant de Dieu. Et Dieu nous invite à être des disciples qui lui obéissent dans les choses simples de tous les jours. L'autre fois, quelqu'un me disait « Ah, mais tu pourrais faire, t'es infirmier, t'es à ton compte, tu pourrais faire ci, ça, en gros, pour, vous savez, dans les comptes, voilà, maquiller quelque chose. » Et j'étais mal à l'aise ce jour-là parce que je n'avais pas su répondre, je n'avais pas su défendre, entre guillemets, ma foi de la bonne manière. Mais je me dis, préparons-nous. Vous savez, il y a ce passage qui dit qu'on soit toujours prêt à défendre notre foi, qu'on soit toujours prêt à témoigner. Parce que on va être mis, et je pense, dans cette période dans laquelle on vit, on n'a peut-être pas une persécution, on a quand même le droit de, voilà, de vivre notre foi en toute liberté, mais il y a quand même une lourdeur qui est là par rapport à l'atmosphère dans notre pays et dans notre monde. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt à répondre. Amen. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé. Vraiment, j'ai envie de clôturer, quand même qu'on puisse se mettre devant Dieu, chacun s'examiner. La Bible dit de nous examiner, on est toujours autour de la table. Examinons-nous, les amis, un instant. Amen, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour le livre d'Esther que tu as choisi qu'il soit dans notre Bible, Seigneur. Je te bénis pour ce livre-là qui est tellement riche, comme tout le reste de ta parole, Seigneur, tellement riche. Et Seigneur, vraiment, aujourd'hui, tu vois, comme ces jours-ci, tu m'as vraiment parlé au livre d'Esther, je crois que tu as parlé à mes frères et mes sœurs aussi. Et Seigneur, je te prie vraiment de parler à nos cœurs maintenant, par ton esprit. Merci parce que ton esprit est en communion avec notre esprit maintenant, Seigneur. Et premièrement, Seigneur, par rapport aux Juifs, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois l'antisémitisme qui fait rage dans notre société, de manière parfois visible et très évidente, mais souvent de manière subtile et cachée. Seigneur, on ne veut pas céder à ça, Seigneur. Tu vois qu'au fondement du christianisme, l'empereur Constantin a amené les chrétiens dans cet antisémitisme. Seigneur, on veut refuser cet héritage-là. Et je vous invite, les amis, ce matin, à demander pardon pour ceux qui vraiment sentent l'esprit parler à ce niveau-là. Vraiment, là où tu es, je t'invite à demander pardon pour un antisémitisme. Enfin, voilà, on n'est pas là pour dire des grands mots et tout, mais en gros, pour ton manque d'amour pour les Juifs, ton manque d'amour pour le peuple de Dieu, ton manque d'amour pour Israël. Seigneur, on veut te demander, je te demande pardon pour ça, Seigneur. Pardon pour toutes ces années, Seigneur, où je ne réalisais pas l'importance de ton peuple. Que si nous avons toutes ces bénédictions, c'est grâce à ton peuple, Seigneur. Nous sommes greffés sur l'olivier franc. Merci parce que le salut vient de Jésus. Le salut vient des Juifs, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous choisissons d'honorer le peuple juif, d'honorer le peuple de Dieu, vraiment de les bénir, Seigneur, de dans tout ce qui se passe qu'on peut voir aux infos, Seigneur, tu protèges ton peuple, Seigneur Jésus, et que ton peuple puisse te reconnaître comme Messie. Messie. Le nom de Jésus, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Dieu sauve ton peuple. Sauve tes enfants d'Israël. Seigneur, je te dis merci pour ces otages qui ont été libérés. On veut vraiment rappeler tous ceux qui sont encore les corps qui n'ont pas été rendus, Seigneur Jésus, afin que ces familles puissent retrouver leurs membres de famille, ces corps-là, Seigneur Jésus. Et vraiment, on prie pour la paix dans cette région, Seigneur Jésus. Seigneur, on sait qu'il y a un enjeu spirituel extraordinaire dans cette région, mais on te prie pour ton action, Seigneur Jésus. Merci parce que tu ne te repens pas de tes promesses envers ton peuple Israël. Merci parce que les promesses qui nous sont faites à nous en tant que tes enfants sont liées, nos destins sont liés. Merci parce qu'il n'y a pas de supériorité de christianisme sur le judaïsme. Pardon Seigneur pour notre arrogance parfois, en disant mais nous on a compris que Jésus était le Messie. Pardon Seigneur, que nous sommes plutôt dans la prière Seigneur Jésus, que nous sommes plutôt dans l'honneur, que nous sommes plutôt à expliquer aux Juifs qu'on les aime et qu'on est cousins avec eux. et qu'on a vraiment cet appel en commun. Au nom de Jésus, Amen.